9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec l'épidémie de Covid et les confinements successifs, l'engouement pour le télétravail a fait un véritable bond en avant et sa mise en place dans les entreprises s'est réalisée à une vitesse bien plus rapide que prévu. Le but, limiter les contacts avec les collègues. Mais bien avant cela, le télétravail était fortement encouragé, notamment pour ses bénéfices sur l'environnement. On télétravaille à la maison, on ne se déplace donc pas à l'intérieur d'un véhicule 2 fois par jour, 5 fois par semaine, et on émet moins de CO2 de ce fait. Oui, mais voilà, le travail à distance est également synonyme de nouveaux matériels électroniques à acheter, de longues heures au téléphone ou en réunion par webcam, des mails, des fichiers partagés, et tout cela a aussi un coût pour la planète. Et c'est le sujet d'un livre à la fois pédagogique et ludique, tout en couleur. Son titre est « Cliquer, c'est polluer ». Bonjour Julie Martin.
Bonjour.
Vous êtes l'auteure et la conceptrice de ce livre, édité aux éditions 404. 404, c'est comme erreur 404 ?
Je pense que oui, je pense que ça vient de là.
Votre livre nous alerte sur la pollution du numérique. Et pour que tout le monde comprenne, vous avancez un chiffre effrayant qui concerne le streaming. Il concerne cette chanson, j'y arrive. Tout le monde a reconnu la chanson Baby Shark postée par la chaîne coréenne Pinkfong et qui est devenue la vidéo la plus vue sur YouTube, regardée plus de 10 milliards de fois. Pourquoi vous la citez ?
On la cite parce que son empreinte carbone. Donc, comme c'est la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est aussi celle qui a consommé le plus d'énergie en étant vue par les gens. Et du coup, elle a consommé autant que 2200 appartements chauffés au gaz pendant plus d'un an.
Des appartements de 50 mètres carrés. Voilà. Cette chanson sur YouTube, c'est la consommation en gaz d'un an de 2200 appartements de 50 mètres carrés. Alors, on va entrer dans les détails, mais depuis quand se soucie-t-on de la pollution numérique ?
On va dire que dans les sphères vraiment concernées, dans les acteurs du milieu, ça, c'est un sujet dont on parle quand même depuis, on va dire, 2-3 ans. Il y a eu, suite au premier rapport du GIEC, il me semble, un rapport du Shift Project, qui était un think tank basé justement sur la réflexion autour de l'impact du numérique qui est sorti. Aujourd'hui, le gros du sujet, en fait, c'est d'arriver à en parler au grand public et aux particuliers, c'est l'objet du livre d'ailleurs, en parler aux ados, aux jeunes adultes, qui sont les plus gros consommateurs du numérique. Et qui se rendent pas forcément compte des impacts que ça peut avoir.
Et qui sont souvent les mêmes à s'indigner, à glapir sur les réseaux sociaux en disant « Tu te rends compte, tel ministre a pris un avion alors qu'il aurait pu prendre le train ?» Et je le rappelle, le numérique émet 4 fois plus de CO2 à l'échelle de la planète que tout le transport aérien. Pas
oui.
Que tout le transport,
oui.
que le transport aérien. Il faut bien le préciser. Vous avez les chiffres en tête ?
Alors, il me semble que donc, l'aviation civile, c'est 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Mmh. Le numérique, c'est pas loin de 5%, c'est 5,5%.
Ouais, voilà.
Donc, c'est énorme. C'est un petit peu moins que les voitures aujourd'hui, mais sachant que ça continue de progresser, le numérique, c'est pas loin de dépasser l'émission carbone des voitures.
Il y a plusieurs chiffres différents, parce que moi, j'avais 10% pour le numérique et 10% également pour le textile.
Oui.
Et la fast fashion, il faut le dire, c'est polluant à l'extrême et on s'en rend très peu compte. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait fait une promesse. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Le nouveau gouvernement a été nommé il y a une semaine. La première ministre, Elisabeth Borne, est elle-même chargée de gérer la planification écologique. À ses côtés, deux ministres, Amélie de Montchalin, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Et cette dernière, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée cette semaine de BFM TV, c'est Amandine Atalaya avec qui elle parle de pollution numérique.
Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Et donc, effectivement,
c'est ça. Donc avant, à vos
nous
yeux,
sommes aujourd'hui dans un travail de fond qui est compliqué, qui suppose de la concertation, parce qu'il n'y a pas des solutions toutes trouvées, qui suppose de la transparence, qui suppose également d'associer les Français. Je crois que c'est très important et tous Français aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
À quoi fait référence la ministre ? Comment une pièce jointe peut-elle émettre du CO2 ?
Alors en fait, il faut savoir que l'une des choses qui consomme et qui émet du coup du CO2 sur Internet, c'est les données qui circulent dessus. Un email, à la base, s'il y a juste du texte, c'est pas super lourd. À partir du moment où on rajoute une pièce jointe, on rajoute des données, donc on rajoute du poids. Et donc on va rajouter des choses à traiter, parce que quand on envoie un email, du coup, il est traité par notre messagerie de départ. Il est envoyé en petits paquets de données dans tout le réseau Internet qui circule au fond des océans, dans des grands câbles, et qui parcourt en moyenne 15 000 km, il faut le savoir, avant d'arriver dans la boîte de réception du destinataire. Et il est d'ailleurs, à ce moment-là, réanalysé par la messagerie d'arrivée du destinataire. Il est également sauvegardé dans les data centers du service de messagerie qu'on a utilisé. Donc en fait, tout ça fait que cet email, il consomme de l'énergie, il consomme de l'électricité, donc par conséquent, il émet aussi du CO2. Plus il est lourd, plus il en consomme. Quand on met une pièce jointe, ça en consomme donc plus. Et évidemment, je crois que c'est 4 grammes à peu près l'empreinte carbone d'un email tout simple, juste en texte. Ça se multiplie par 10, voire plus, quand on ajoute une pièce jointe. Et il y a à peu près 300 milliards de mails qui sont envoyés par jour dans le monde. Donc en fait, c'est aussi ces petits grammes par petits grammes, quand on le multiplie par le nombre d'utilisateurs et le nombre d'occurrences par jour, ça devient vraiment vertigineux.
Donc ça veut dire qu'il faut moins envoyer de mails et aussi les effacer et faire de la place dans sa boîte si on est sur le cloud. Parce que si on est sur son ordinateur, moi j'ai mes mails dans mon ordi, je ne suis pas sur le cloud, ça ne dépense rien, on éteint l'ordi, il s'éteint.
Tout dépend, à partir du moment où la mémoire va être un peu saturée, il va forcément se mettre à consommer un petit peu plus en batterie. Mais effectivement, c'est le fait de le sauvegarder, de le garder sauvegardé sur le cloud, c'est là où effectivement ça consomme beaucoup plus.
Alors la déclaration de la ministre a enchaîné beaucoup de réactions sur Twitter, de réactions négatives, je vais en citer quelques-unes. L'écologie, selon Panier Runacher, c'est de ne pas envoyer des mails, mais sûrement pas de remettre en cause le dogme mortifère de la croissance et le productivisme, ou encore celle-ci, ce n'est pas le citoyen lambda qui pollue le plus, Total, on en parle. Est-ce que ça passe vraiment par ces petits gestes de réduire notre empreinte carbone ou est-ce qu'il ne faudrait pas s'en prendre d'abord aux gros poissons, d'abord les GAFA, les GAFAM ? Julie Martin, qu'en pensez-vous ?
Évidemment, de toute façon.
Parce qu'évidemment, on se dit, il faut tout faire. C'est la stratégie du colibri.
C'est vrai.
Mais un petit geste, parfois ça ne donne rien par rapport à un gros geste. Qu'en pensez-vous ?
Je partage assez. Alors, je vais dire que je suis plus...
Alors moi, je suis mesuré parce que moi, je n'ai pas d'avis, je n'en sais rien. J'attendais votre réponse.
Alors,
je n'ai pas d'avis, je me demande. C'est la question que je me pose tout le temps.
Je pense que c'est un double travail, en fait. Évidemment, on ne peut pas faire reposer tout le poids de toute la transformation sur les citoyens, petit choix par petit choix. Néanmoins, en fait, il faut quand même se dire que si tout le monde agit, encore une fois, vu surtout sur le numérique, vu nos usages et vu le fait qu'on n'a jamais vraiment cherché à les raisonner, ça aura de toute façon de l'impact. L'un des conseils qu'on donne dans le livre, c'est aussi d'aller regarder finalement comment sont alimentés les différents réseaux sociaux qu'on utilise, par exemple, parce qu'il faut savoir que les mix énergétiques qui sont consommés par les data centers d'Instagram, ils sont un peu plus propres que ceux qui sont consommés par d'autres réseaux sociaux.
Ah bon, lesquels sont moins propres ?
Le moins propre, il me semble que c'est TikTok. En Chine, il y a encore 80% de l'électricité qui est produite
par du charbon,
du pétrole. Donc du coup, forcément, ça a plus d'émissions carbone. En fait, le fait finalement de faire en sorte que les gens prennent conscience de ces problèmes, raisonnent leurs propres usages, mais aussi interrogent leur consommation et interrogent ce qui se passe au-dessus, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je travaille dans une agence de communication digitale, donc on produit des contenus, des sites sur Internet. Et effectivement, donc, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'en étant acteur de ces métiers-là et en étant producteur de ces contenus-là, c'était important aussi de réfléchir à la manière de les raisonner. Donc il y a vraiment une double réponse à avoir, qui est d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau individuel. D'autre part, que peuvent faire les grands acteurs comme les agences de production de contenu, comme les GAFAM et que peuvent faire les États aussi qui sont beaucoup en train de légiférer.
C'est un total changement de paradigme parce que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand on a arrêté ou presque la presse écrite pour avoir les journaux sur les tablettes et quand on a arrêté d'envoyer du courrier pour s'envoyer des mails, on a dit, tu vois, comme ça, il n'y a plus aucune pollution. La preuve que non et que les choses sont toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. On est avec Julie Martin, on parle de ce livre « Cliquer, c'est polluer ». Vous parlez dans le livre de la continuité d'Internet. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez nous le dire. On marque une courte pause. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Cliquer, c'est polluer, c'est le titre de ce livre publié aux éditions 404. Le sous-titre, comment Internet réchauffe la planète, comprendre pour agir. Son auteur, son autrice est avec nous, c'est Julie Martin. Vous parlez dans ce livre, Julie Martin, de la continuité d'Internet. Qu'est-ce que c'est la continuité d'Internet ?
En fait, la continuité d'Internet, ça consiste à faire en sorte que n'importe quel utilisateur puisse accéder à tout moment, quoi qu'il se passe dans le monde, à ses données. Et donc, ça veut dire qu'on puisse finalement toujours aller sur nos réseaux sociaux, retrouver notre compte, pouvoir toujours actualiser nos fils d'informations, etc.
Quel rapport avec la pollution ?
Eh bien, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a un énorme impact sur la structure d'Internet et la manière finalement dont il devient prépondérant de pouvoir sauvegarder nos données et de les sauvegarder jusqu'à plusieurs fois. En fait, ça veut dire que chaque data center doit pouvoir stocker nos données et ne pas finalement tomber en panne. Mmh. Donc, étant donné que c'est des piles et des piles d'ordinateurs qui tournent non-stop, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient énormément refroidis pour pas qu'il y ait de surchauffe. Ça veut dire que chaque circuit électronique, un peu comme dans les avions, est au moins doublé pour qu'il y en ait un qui, s'il y a une panne, et l'autre puisse prendre le relais. Ça veut dire aussi que chez les plus gros fournisseurs de services Internet, les data centers sont même dupliqués, voire plus dupliqué, honnêtement, voire deux, trois occurrences.
On l'a vu, je me souviens de ce data center qui avait brûlé du côté de Strasbourg et ça avait mis certaines entreprises françaises en difficulté. Mmh. Ils disaient, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de site miroir, que ce ne soit pas dupliqué ?
Et en fait, il y en a qui sont dupliqués. Et je crois qu'en 2010, Google, la Gmail s'était dupliqué jusqu'à 6 fois. Et c'est même ces data centers donc miroirs, ils sont édifiés sur d'autres plaques tectoniques de manière à ce que, même en cas de séisme, on puisse toujours accéder à nos données. Et les data centers, ils sont responsables de 20% de la consommation électrique du numérique. Donc en ça, évidemment, plus il y a de data center, plus le numérique consomme et plus il émet du CO2.
Voilà, et si on en met moins, les gens râlent en disant « Oh là là, ça plante, ça bug, ça rame ».
Exactement.
Donc c'est sans fin, il faut choisir entre la peste et le choléra. Une partie de votre livre est consacrée au streaming. Que se passe-t-il pour l'environnement quand on binge-watch des séries sur Netflix ou ailleurs, ou sur d'autres plateformes ?
En fait, il faut savoir que parmi tous les usages qu'on a du numérique, le streaming vidéo, c'est celui qui est le plus coûteux, c'est celui qui consomme le plus d'électricité.
Il faut le dire, c'est une immense définition, c'est une image, et on passe 25 images par seconde.
Voilà.
Il y a des taux de compression, je ne vais pas raconter ça ici, mais en gros, c'est ça, c'est une photo, 25 photos toutes les secondes.
Plus le fichier son qui va avec, les fichiers sous-titres, enfin bon, ouais. Bref, on peut vraiment aller loin. Donc effectivement, c'est les fichiers les plus lourds, donc c'est 80%, je crois, des données qui circulent sur Internet, c'est des données vidéo. Donc forcément, étant donné que n'importe quelle donnée qui circule sur Internet émet du CO2, le streaming, c'est ce qui émet le plus de CO2.
Vous écrivez cette phrase très drôle et terrifiante. Il vaut mieux regarder un frigo pendant 11 heures qu'une vidéo en streaming pendant une heure, en tout cas sur le plan énergétique. Ou alors vous dites, en 2018, oui, le streaming vidéo a émis 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde. On n'était même pas confinés. Les chiffres viennent d'où ?
Les chiffres, il y a énormément de sources à la fin. Il y a beaucoup de choses qui viennent du fameux rapport du Shift Project notamment, qui a estimé énormément le bilan carbone des vidéos.
300 millions de tonnes de CO2, c'est abstrait. Pour nous, ça représente quoi ?
C'est à peu près les émissions carbone d'un pays comme l'Espagne pendant un an. C'est énorme.
Vous m'avez laissé sans voix.
Je sais. Hein ? Je sais.
Je le répète, le streaming vidéo en année 2018, parce qu'on en consomme encore plus,
bien sûr,
c'est les émissions carbone d'un pays comme l'Espagne. Vous disséquez dans ce livre toutes nos pratiques numériques, on ne va pas les détailler, et les réseaux sociaux sur l'environnement, c'est moins.
Non, déjà, il y a quand même une grosse partie du streaming vidéo. Je crois qu'il y a 18% du streaming vidéo qui a lieu sur les réseaux sociaux. Donc, de facto, ils consomment aussi. Après, les autres interactions qu'on a dessus, on va dire, quand on clique, qu'on like, qu'on scrolle, etc., ça a quand même un poids aussi. Ça a un poids parce que forcément, encore une fois, c'est des données qui sont hébergées dans des data centers. Après, il faut regarder effectivement comment sont alimentés ces fameux data centers, parce que d'un réseau social à l'autre, il y a des réseaux qui sont plus propres que d'autres en énergie.
Et les jeux vidéo ? Parce que ça va dans les deux sens.
Bien sûr.
Joueur, ça va de l'ordi au joueur et du joueur à l'ordi.
En fait, le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Alors, soit on peut... il y a toujours cette contre-intuition là où à un moment on s'est dit cool, on peut télécharger un jeu en ligne, c'est moins coûteux que pour l'environnement que d'acheter une boîte plastique. En fait, ça va dépendre du poids du jeu vidéo. À partir d'un certain poids qui n'est pas très énorme d'ailleurs, il vaut mieux acheter en dur que de télécharger. Et le jeu vidéo aujourd'hui se pratique aussi en streaming, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tourne sur nos ordis personnels, mais que tout est en train de tourner dans les data centers. Et ça a le même impact que le streaming vidéo.
Alors, il y a les pratiques, il y a le hardware et le software. Pour une fois que je connais deux mots d'anglais, je vais les placer. Il y a nos pratiques et nos équipements. Il y a un chiffre que vous partagez dans le livre. 70% de l'empreinte carbone du numérique en France est due à la fabrication et à la distribution de nos appareils. empreinte accentuée par une surconsommation de produits électroniques. Exemple avec l'iPhone, dont une nouvelle version sort en gros tous les ans. Dernière en date, c'est l'iPhone 13. Et on a retrouvé la vidéo, c'était en septembre dernier, d'un YouTuber. Il s'appelle Jojol, spécialisé dans l'actualité de la tech. Sa vidéo s'appelle « J'ai acheté 9 iPhone 13 et 13 Pro ».
4 couleurs pour la version Pro et Pro Max. 5 couleurs pour la version 13, 13 mini. Nous avons donc 9 iPhones à présenter dans cette vidéo. Chaque année, vous êtes tout le temps nombreux à vouloir ce type de vidéo parce que finalement, ça vous aide à choisir les couleurs que vous souhaitez avoir sur votre futur iPhone si vous n'avez pas eu la possibilité de l'acheter ces premiers jours. Bon, on va déballer quoi en premier ? Pro, pas pro ? Allez, pas pro ! Donc il y a 5 couleurs, du rouge, du bleu, du blanc, du noir et du rose.
Alors lui, il cumule parce qu'il fait du streaming, mais il a aussi acheté 9 iPhones. Vous écrivez, Julie Martin, qu'un gramme de smartphone pèse plus lourd qu'un gramme de voiture. On voit bien l'analogie avec le kilo de plume et le kilo de plomb. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
En fait, il faut savoir que ça vient d'une notion qu'on appelle le sac à dos écologique. C'est une mesure qui permet de quantifier le poids des ressources naturelles qui ont été nécessaires pour la fabrication d'un objet. Et pour le téléphone, pour un smartphone, c'est à peu près 500 fois son poids. Ça veut dire qu'on va extraire 500 fois le poids d'un smartphone pour arriver à le construire. Et ça, c'est dû en grande partie à ces composants qui sont des semi-conducteurs. Donc en gros, c'est toutes les fameuses terres rares. Donc on commence à entendre pas mal parler, étant donné qu'elles sont un peu en pénurie aujourd'hui. Et donc, en fait, pour extraire quelques grammes de terres rares, il faut creuser d'énormes tonnes de roches. En plus, il faut les rincer avec des produits qui ne sont pas super pour l'environnement.
Voilà. Et parfois, ça se retrouve dans les rivières, dans les fleuves et dans la mer.
Exactement. Et par rapport, par exemple, à d'autres matériaux qui sont nécessaires pour construire nos voitures, mais qui finalement nécessitent moins d'extraction de roches à la base, forcément, nos smartphones, entre autres, nos smartphones, nos ordinateurs et tout ce qui contient une puce électronique, en gros, pèse beaucoup plus lourd pour le climat que des voitures, par exemple.
La preuve, on voit, puisque la fabrication des voitures est en ce moment bloquée par manque de composants et non pas par manque d'acier pour faire le châssis ou d'aluminium. Beaucoup de chiffres dans votre livre, d'alerte. Juste toute petite dernière question positive. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour diminuer notre pollution numérique ?
Comme vous venez de dire que la plus grosse partie de l'impact carbone du numérique, c'est les appareils électroniques du moins. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les protéger. Il faut prolonger leur durée de vie. Un téléphone en France, c'est à peu près 23 mois de durée de vie avant d'être, j'allais dire même pas recyclé, avant d'être fourgué dans le fond d'un tiroir.
C'est un progrès, je me rappelle, quand ça durait 11 mois, qui tombait en panne un mois avant la fin de la garantie.
Exactement.
Déjà 23 mois, c'est une bonne nouvelle.
23 mois, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que le premier truc, c'est de faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être passées dans pas mal de pays, et notamment au niveau de l'Union européenne et en France, pour lutter contre l'obsolescence programmée dont vous parlez, c'est-à-dire d'arrêter de faire en sorte que les mises à jour fassent ramer nos téléphones et nos ordi, et que du coup, on soit obligé de se rééquiper. Le cœur de la guerre, il est un peu là, parce qu'il faut aussi se dire que de toute façon, avec cette fameuse pénurie des semi-conducteurs, à un moment, on ne va plus pouvoir renouveler sans arrêt comme ça nos matériels électroniques.
Et arrêter d'envoyer des pièces jointes avec des photos, pas drôle.
Ça, c'est vrai. Merci, maman.
Merci, Julie Martin. Ce livre, Cliquer, c'est polluer, disponible aux éditions 404.
Oui, en co-auteur, il y a Valentin Pujadas, qui est Dirty Pot, donc du coup, qui travaille chez BETC Full Six avec moi. Voilà, et comme c'est lui qui est le responsable de toutes les illustrations, c'est un livre largement illustré.
C'est vrai, très, très, très illustré. C'est pour les petits, les grands et les ados, c'est pour tout le monde.